France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
On reconnaît sa voix et son univers entre tous. Fille d'eux, c'est le titre de son nouvel album. Claire Diterzi sera mon invitée à partir de 13h. Et tout de suite, place à la critique avec aujourd'hui une émission consacrée à l'actualité du manga d'hier et d'aujourd'hui, je dirais, avec l'album empreint de questions très contemporaines d'Inyo Asano intitulé Munjina into the Deep et puis avec June, la rêverie de jeunesse du mangaka vénéré Shotaro Ishinomori. Vous écoutez les Midis de Culture et vous êtes fait pour ça. Eux, ils sont faits pour le manga, en tout cas je crois. Nos critiques du jour, Fausto Fasulo, fondateur de la revue Atom et co-directeur artistique du Festival d'Angoulême, bonjour.
Bonjour Marie.
Pauline Croquet, journaliste au Monde, rubrique Culture, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. On commence avec l'univers dystopique d'Inyo Asano, univers dont le mangaka n'est pas si familier, mais qu'on ne s'y trompe pas avec ce premier volume de Munjina Into the Deep. On plonge dans un Tokyo de demain qui ressemble quand même beaucoup à un Tokyo qui pourrait être celui de dans quelques heures, à savoir une société japonaise vieillissante où pour accéder aux droits humains, il faut avoir en poche une carte. Sans elle, vous n'êtes rien et vous devenez hors la loi. Pour survivre, certains se lancent dans des carrières de tueurs à gages et deviennent le symbole d'une forme de liberté et de résistance. On commence avec un avis rapide, Pauline Croquet.
Alors, j'étais un petit peu embêtée parce que j'aime beaucoup Inyo Asano, mais là, j'ai trouvé que c'était un petit peu caricatural au départ, l'univers tel qu'il le construit. Mm-hmm. C'est encore une fois très, très bien dessiné. Si on avait envie d'aller chercher des... On se disait, tiens, on va varier un petit peu dans ces thèmes. Pas du tout. Là, il reste encore très centré sur cette jeunesse désespérée. C'est pas un mal, hein, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus nouveau, d'un petit peu plus travaillé. À voir, donc.
Fausto Fasulo.
C'est un livre que je trouve assez passionnant et très paradoxal. Il est à la fois facile et complexe. Facile parce qu'en fait, on est dans de la pure bande dessinée de genre, donc dystopie, science-fictionnelle, avec des jeunes filles armées de katana, une iconographie comme ça, très jeu vidéo-esque. Et difficile parce que effectivement, il brasse voilà des thématiques qui, en plus aujourd'hui, résonnent de manière assez particulière, hein, puisqu'on sait que le Japon traverse une sorte de crise identitaire, on va dire. Il y a une crispation générale de la population. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, et en cela, Inyo Asano, l'auteur, avait le nez creux, travailler un récit comme ça qui nous parle de caste, en fait, je trouve que ça résonne particulièrement.
Mmh. Alors, Pauline Croquet, peut-être qu'on peut revenir sur ce qu'a fait jusqu'ici Inyo Asano, si on est étonné, enfin, on n'est pas étonné finalement de le voir reprendre ses thèmes.
Non, pas du tout. Alors, Inyo Asano, si je devais présenter à gros traits, c'est un petit peu le mangaka qui, à mon sens, fait la synthèse entre le manga d'auteur et aussi un manga plus commercial, plus pop. Il a vraiment cette double culture. On le retrouve à la fois dans son dessin. C'est quelqu'un qui fait du travail hyper réaliste, très travaillé. Il met en scène beaucoup de jeunes gens, donc avec un dessin très beau, très léché, très voilà. Il a sa patte vraiment propre. On n'est pas forcément dans les clichés ou les stéréotypes graphiques du manga commercial, enfin d'un certain manga commercial. À côté de ça, il va aussi aborder des thèmes, alors parfois qu'on rappelle plutôt dans la tranche de vie, ou des thèmes de société. Donc, il a beaucoup parlé de la question, en fait, des jeunes adultes ou des adolescents un peu laissés pour compte, qui ont du mal à trouver leur place dans la société, à la fois comme membres actifs de la société. Par exemple, il a beaucoup parlé des travailleurs précaires, des jeunes gens comme ça, entre deux âges, entre deux situations professionnelles. C'est quelqu'un aussi qui aime... dépeindre assez crûment les relations entre les gens, notamment les relations sexuelles. C'est, pour lui, ça fait vraiment partie intégrante de ce qu'il faut raconter, dire de la vie. Et à côté de ça, ça lui arrive parfois d'aller chercher, c'est pas la première fois qu'il va chercher des éléments fantastiques. On pense à Dead Dead Demon Destruction, donc un manga très difficile à prononcer.
Il y a plein de
dédédédédédédédé. Voilà. qui avait marqué parce qu'on était plutôt dans une ère post-Fukushima. Enfin, en tout cas, à mon sens, c'était un peu son interprétation de la catastrophe. À savoir, on était dans un monde contemporain, très réaliste, mais planer une entité extraterrestre, on ne sait pas trop au début, qui se met au-dessus de la ville comme ça et qui semble menacée, mais en même temps ne pas bouger. Donc voilà, cette onde planante. Et donc on a ce mélange-là, et déjà l'œuvre, et effectivement on le retrouve dans Mugina, à savoir on est plutôt dans une société dystopique, mais qui a un ancrage très réaliste. Toutefois, voilà, il y a des éléments, par exemple les Mugina, donc qui sont ces personnes laissés pour compte, qui deviennent un peu tueurs à gages et tueuses à gages, ont des chaussures spéciales pour sauter. On peut avoir comme ça cette carte qui donne des droits. Donc voilà, on voit une esquisse d'un futur proche. Voilà, donc Inyo Asano, c'est une synthèse, et à la fois, ben, dans son dosage, parfois il va plus vers la question d'auteur, il va plutôt questionner sa position de mangaka, et puis à côté de ça, il va parfois aller flirter avec des choses plus commerciales, parce qu'il le dit, il a une envie de réussir et de connaître du succès.
Alors Mugina, ça correspond exactement à ce que vous disiez, Pauline. Pour vous, Fausto, facile et complexe, c'est peut-être ça. C'est à la fois grand public et un peu moins, peut-être.
Oui, c'est ça. Bah, c'est vraiment une œuvre qui est le fruit des questionnements de son auteur, en fait, qui, je pense, s'est dit aussi à un moment, je vieillis, combien de temps vais-je pouvoir raconter en fait, des histoires qui mettent en scène les atermoiements et les questionnements de jeunes adultes. Lui-même n'est plus un jeune adulte
c'est
aujourd'hui.
C'est ça, il a une quarantaine d'années, c'est ça.
C'est ça, exactement. Et c'est assez intéressant, justement, dans le récit. C'est, moi, je suis très curieux de voir quelle partie il va finir par prendre, en fait. Parce qu'en fait, le manga montre aussi ces points de friction entre générations, en fait. Entre ce qu'on peut appeler les boomers et, effectivement, certains jeunes travailleurs. Et, je vois à peu près de quel côté son cœur balance. Mais ce que je trouve assez intéressant et touchant, c'est qu'il est extrêmement sincère. C'est que, évidemment, que lui est un boomer, je mets des grosses guillemets. Et qu'il se sent un petit peu, d'une certaine manière, largué par cette nouvelle génération et prise de liberté qui, parle plutôt de salaire universel que de travail. C'est vrai que c'est des questions qui traversent par ailleurs toutes les sociétés, et encore plus une société comme celle du Japon, où on sait que la valeur travail est particulièrement fondamentale dans la société. Et donc je trouve le livre vraiment passionnant, et je suis très curieux de voir en fait comment l'histoire va se déployer, jusqu'à quel point en fait elle va embrasser tous les codes du genre, en fait du genre science-fictionnel, jusqu'où il va aller pour satisfaire un public qui peut se contenter en fait de la surface, et ensuite voir aussi ce qu'il va faire en dessous de cette surface-là et ce qu'il va nous faire passer comme idée, comme concept et aussi comme opinion.
Pauline Croquet.
Alors, pareil, je suis curieuse de voir la suite, mais plus parce que j'ai bien peur qu'il survole un peu certains des sujets qu'il semble mettre à l'œuvre, en tout cas dans ce premier tome. Pour autant, je veux bien lui faire confiance, et en tout cas, on n'est jamais déçu avec Inyo Asano. Il y a quand même beaucoup de choses à voir, notamment sur son travail du dessin. Et là où je rejoins Fausto, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'il change. Il y a un glissement, il le disait d'ailleurs dans plusieurs interviews quand il est venu à Angoulême il y a quelques années. C'était effectivement, il est en train de changer de catégorie d'âge, il le reconnaît. Et ce questionnement, il semble le mettre au cœur de son personnage qui s'appelle Terumi Morgan, qui est un des personnages de Mugina, qui est un patron d'un petit studio de jeux vidéo, qui a à la fois une vie un petit peu misérable, une vie personnelle un peu divorcée, des difficultés avec son beau-fils, et à côté de ça côtoie beaucoup de jeunes, quoi. Il y a vraiment le côté il essaye de se mettre à la page, et il va être confronté comme ça, il va rencontrer des gens laissés pour compte, et on sent bien que c'est là, cette ligne de crête. Moi, là où je suis un peu moins persuadée, c'est qu'il y a dans... Alors, effectivement, c'est quelque chose aussi pour être dynamique, pour poser le décor, mais il y a un peu le côté comme ça, très caricatural, des jeunes filles au katana avec des gros plans sur des mini-shorts. Il y a ce côté un peu, cette lubricité qu'on va voir chez tous les hommes matures. Alors, pourquoi pas le poser, mais c'est vrai que c'est un peu...
Mais qu'est-ce qu'il en fait?
C'est ça. C'est
moi,
que
je trouve
pour
qu'il le critique, en fait. Hein.
Fausto,
moi, je trouve que c'est un regard, justement, c'est quelqu'un... Enfin, le personnage de Morgan, le concepteur de jeux vidéo, que Inyo Asano, d'ailleurs, tient comme étant le véritable héros de la série, c'est très clairement lui. Hein. C'est-à-dire un mec qui vient juste de divorcer, un peu misérable, qui fréquente des hôtesses, pour ne pas dire des prostituées, et qui, en fait, sait pas trop où il va, se retrouve confronté à, effectivement, des gens d'une plus jeune génération qui travaillent avec lui, mais qui ne pensent pas tout à fait comme lui, qui n'ont pas le même degré d'investissement. Donc c'est vrai que là, il y a une dimension autobiographique assez forte. Alors après, je peux entendre aussi que cette dimension-là n'est pas forcément palpable immédiatement pour quelqu'un qui ne connaît pas l'auteur. Mmh. C'est en cela, là, effectivement, nous, on parle un petit peu en tant qu'expert, et je mets des guillemets, et c'est vrai qu'on a cette vision de l'auteur, on a cette profondeur, parce qu'on connaît son travail, on a lu des interviews, etc. Moi, je serais curieux de voir, en fait, comment réagirait quelqu'un qui ne connaît pas Inyo Asano, et comment il prendrait
ce bouquin-là. Qu'est-ce qu'il y verrait?
Je pense qu'il y a cette idée de surface, c'est-à-dire qu'il y verrait effectivement une histoire d'action plutôt bien menée, avec un scénario dystopique qui n'est pas d'une originalité folle, hein. Système de caste dans la SF, c'est déjà des choses qu'on a vues plein de fois. Je pense qu'il y a quand même une satisfaction première qui est ne serait-ce que celle du spectacle et du dessin, parce que comme le disait Pauline, effectivement, Inyo Asano, c'est quelqu'un qui dessine très bien, tout ça est très subjectif, mais c'est quelqu'un en tout cas qui aujourd'hui a poussé les outils de modélisation 3D jusque dans leur dernier retranchement pour obtenir un résultat hyper réaliste et immersif qui fait que quand on tombe par exemple sur une double page de Mujina, on est littéralement plongé dans le décor. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est de la 2D, mais on a une sensation de palpabilité comme ça qui est quasiment immédiate. Donc je pense qu'il y a une dimension quand même assez spectaculaire dans son dessin et dans son travail qui peut séduire des lecteurs qui ne connaîtraient pas sur le bout des doigts la bibliographie d'Inyo Asano.
Pauline Croquet.
Et l'aspect grand spectacle, on le retrouve aussi dans sa façon de choisir ses personnages, notamment ses personnages féminins, ses combattantes. On voit éboumer une des héroïnes. Il y a des gros plans sur son visage, c'est vraiment très beau, très spectaculaire, même dans les déplacements, faire le choix de mettre des chaussures un peu volantes qui permettent de faire des sauts comme ça sur des décors citadins, urbains, japonais. C'est vraiment très beau. Les scènes de combat qui sont assez fugaces, finalement, dans ce premier tome, restent spectaculaires. Et encore une fois, Inyo Asano, ça reste le haut du panier en termes de dessin. Et je pense aussi, même si on n'a pas toutes les clés pour qu'on ne connaît pas forcément profondément tout son travail, en tant que... Alors, c'est un manga pour public averti, quand même. Il y a des scènes assez crues, assez violentes. Mais ça peut parler peut-être à des gens qui sont... En tant que jeune adulte, ça peut faire partie, effectivement, de ces séries qui peuvent à la fois filer un petit frisson et commencer à donner à réfléchir. Mais là où j'ai peur, c'est qu'on reste un petit peu en surface et qu'il se fasse... En fait, tout serait de savoir est-ce que Inyo Asano, il a envie là-dessus de faire du pur spectacle ou est-ce que peut-être... À la faveur d'un succès plus confidentiel, même si peut-être il souhaiterait un succès plus ample et plus commercial, il ira chercher des thèmes plus intimes qu'il avait déjà mis à l'œuvre précédemment. Et là, ce dosage, c'est difficile à dire parce qu'il a souvent bougé le curseur dans ses séries.
Moi, je pense que Chasser le naturel, il revient au galop. Je pense qu'en fait, il essaye de faire une série effectivement très commerciale. Je pense qu'il a réfléchi aussi au public international. C'est-à-dire que quand il choisit, ce qu'on peut appeler des clichés de Lolita,
Je suis contente qu'on y revienne parce que c'est vrai que ça saute aux yeux. C'était les premières pages. On a vraiment des choses qu'on connaît par cœur,
tout à fait,
qui font partie de ce qu'on peut avoir comme idée préconçue sur le manga.
C'est ça, le cliché de la Lolita japonaise qui a été véhiculé par plein d'œuvres différentes de fiction, que ce soit dans le jeu vidéo, dans la bande dessinée ou dans les films. Et c'est vrai qu'il reprend ça à son compte de manière assez consciente, je pense, afin de faire un petit peu du pied au public occidental en lui disant, qu'est-ce que vous attendez d'un mangaka? Une jeune fille avec un petit short, un peu stylé, une coupe au carré, un sabre, etc. Je pense qu'il est très conscient de ça et c'est quelqu'un qui est extrêmement critique justement sur l'hypersexualisation des héroïnes dans le manga. C'est quelqu'un justement, pour moi, le travail d'Inyo Asano, c'est toujours un peu un travail de cheval de Troie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va capitaliser sur les apparences, sur la surface, qui va vous dire « Ah, vous voulez voir des filles sexy ? Bah, venez, venez !» Et en fait, il va nous raconter autre chose. Mmh. Et cette autre chose, dans Mujina, on attend que ça se déploie de manière un petit peu plus visible, mais je suis quasiment certain que ça va arriver.
Et un des jetons qu'il pose aussi, qu'il évoque, et on le voit en ouverture finalement de fin de tome, c'est aussi le questionnement de la société du spectacle. Il y a des personnages qui sont à la fois des influenceurs, on a des présentateurs télé, on a des gens, des agents d'idoles de pop culture. Donc ça, c'est esquissé, c'est omniprésent à la fois dans la culture visuelle japonaise et aussi dans la pop internationale. C'est quelque chose qui revient de plus en plus. Et donc ça, c'est vrai que c'est posé. Voilà, espérons que ça soit travaillé.
Ils les aiment pas, ces gens, en tout cas.
Non, effectivement, quand on voit le dessin des personnages et notamment des visages, on a compris de quel côté ils se situaient. Ça, c'est évident.
Mungina, Into the Deep, c'est le volume 1. On attend la suite avec impatience de Inyo Asano, qui paraîtra le 10 octobre prochain aux éditions Kana. Il est traduit du japonais par Thibaut Desbief. Et ouais, bon, vous aurez compris qu'on opère un sacré retour en arrière dans l'histoire du manga. Vous venez d'entendre le générique d'Astro Boy, personnage créé par le maître Osamu Tezuka au début des années 50, une des bandes dessinées les plus lues au monde. Et si je vous parle d'Astro Boy, c'est que l'auteur que nous allons évoquer maintenant a été assistant sur ce manga mythique. Et cet auteur, c'est Shotaro Ishinomori, un des papes fondateurs des super-héros de manga qui nous a quittés en 98. Mais dans June, l'album qui nous intéresse aujourd'hui et qui est sorti le 12 septembre en France chez IMHO, on est bien loin de cet univers. Ici, le rêve et la poésie sont à l'œuvre et je vais laisser nos critiques nous décrire ces quelques pages en quelques mots d'abord. Fausto Fasulo.
Alors quelques mots, je pense qu'il faut vraiment prendre le bouquin June comme si on lisait en fait de la poésie. C'est-à-dire qu'il faut se laisser transpercer par la subjectivité de l'auteur, il faut accepter l'abstraction, il faut se dire que c'est une invitation au voyage et que la destination est effectivement inconnue et il faut l'accepter, sinon on va rester tout à fait en dehors du livre.
Pauline Croquet.
Je rejoins effectivement cette façon de prendre le livre en main. C'est une exploration. En fait, Ishinomori, dans June, il nous invite à le rejoindre dans ses réflexions à la fois formelles sur le manga en termes de dessin, mais aussi thématiques sur ce qu'est la création, sur ce qu'est l'imagination. Autant dans Mungina, on est face à une jeunesse qui n'a plus d'espoir et qui est très peu optimiste. Autant dans June, on a quelque chose comme ça, certes de l'ordre de la rêverie, du fantastique, mais qui ouvre toujours le champ des possibles. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une case assez simple, d'une situation, un paysage enneigé, et on va partir très très loin dans l'imaginaire. Et effectivement, il faut accepter de se laisser dérouter, mais même quand on ne comprend pas, en tout cas moi ce que j'ai trouvé prodigieux dans ce livre, c'est qu'on ne perd jamais son temps. Même si on accepte de le distendre, de ne pas tout comprendre. En fait, moi, c'est ce qui m'époustoufle, c'est vraiment ce travail visuel, c'est d'aller rechercher, d'aller jouer avec la taille des cases, leur disposition, de saucissonner le dessin, en fait, ou une image pour nous amener à nous promener dedans, et tout ça est superbe. Le seul bémol, c'est qu'effectivement, c'est un manga qui date un peu maintenant.
Ah oui, 67-68, hein, les parutions.
C'est ça. Donc effectivement, là, ce qui me paraît un petit peu plus désuet, c'est les visages des personnages qui sont très, on va dire, typiques de cette époque en manga. Mais après, sur tout ce qui est les techniques de dessin et des paysages ou des objets, ça, on est quand même sur quelque chose qui reste encore profondément parlant et moderne.
Alors Fausto Fasulo, pour revenir sur juste l'histoire de départ, le point de départ, June, c'est un jeune homme qui veut faire du dessin, qui veut faire du manga.
C'est ça, c'est un aspirant mangaka et en fait qui est confronté à la fois à ses propres doutes et aussi aux doutes de son entourage et notamment son père. Voilà, l'un des gimmicks du manga, c'est que son père débarque souvent en fait dans une case pour déchirer ses planches. Donc il y a un travail de sape comme ça de son travail qui est effectué et puis dès les premières pages, les premières planches, il croise une jeune fille qui va être un petit peu une très très jeune fille qui aura d'ailleurs plusieurs formes en fait dans le récit, qui va être un petit peu le fil rouge de ses divagations, j'ai envie de dire. Et quand je parlais d'invitation au voyage, c'est exactement ça. C'est un manga qui est extrêmement mental, métaphysique, et dans lequel il faut accepter de se perdre et de ne pas tout comprendre. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est un véritable défi en fait qui est lancé au lecteur, même à tout type de spectateurs et spectatrices. Hein, c'est d'accepter de ne pas tout comprendre, même dans les fictions, dans les films, etc. À partir du moment où il y a quelque chose d'irrésolu, on sent comme une espèce de frustration. Et cette frustration, elle est souvent associée à quelque chose de négatif. Alors qu'en fait, moi, je trouve ça absolument formidable. Enfin, il y a très peu de temps, on a perdu David Lynch. C'était l'un des maîtres pour ça, en fait. C'était quelqu'un dont on regardait les films, on n'avait pas toutes les clés, il fallait qu'on les trouve. Et en plus, parfois, on avait une clé, mais c'était la nôtre. Ça ouvrait une porte, c'était notre porte à nous. Et Dune, c'est un petit peu ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous l'interprétez comme vous avez envie de l'interpréter. Évidemment, quand on connaît un petit peu Shotaro Ishinomori, on arrive à lire des choses liées à sa carrière. Et puis, en plus, il y a des apparitions de ses personnages célèbres dans le manga. Donc là, c'est vrai qu'il y a une dimension autobiographique qui apparaît un petit peu plus clairement. Mais on n'a pas besoin de le connaître en fait pour plonger dans le récit et être séduit par le dessin et par son découpage, comme le disait Pauline, qui est absolument subjuguant.
Alors le dessin, ce serait bien qu'on décrive un peu à la radio ce que ça donne.
Alors déjà, il faut quand même dire qu'il y a une myriade de techniques voilà. Et de thèmes, c'est-à-dire que déjà Shotaro Ishinomori, c'est quelqu'un qui s'est essayé à beaucoup de registres et on les retrouve là. On va pouvoir avoir des scènes autour de combats de sabre, on va avoir des choses plus SF fantastiques, on va avoir des choses plus gaguesques aussi, qui sont une partie importante. Il y a des choses autour de la psyché qu'on peut retrouver dans le travail qu'il a fait autour de la figure du vampire, bien avant d'autres mangakas célèbres pour ce motif. Et après, bah, en fait, il suffit des fois de prendre une page et de regarder un peu ce qui s'y passe. Donc là, par exemple, hop, je tombe sur une page où on a des décors urbains et on va avoir plein de jeux de perspective et de géométrie autour des bâtiments, autour des voitures qui sont prises, qui sont vues d'en haut. On va avoir pareil, juste après, on enchaîne sur un paysage, enfin, un sol carrelé. Et en fait, il fait comme ça des associations. Il y a des motifs floraux. C'est richissime. Et à côté de ça, une page suivante, on est plutôt sur du crayonné, sur quelque chose de plus esquissé.
Oui, il y a un travail sur le flou qui est étonnant.
Oui.
Tout à fait. Puis l'une de ses spécialités, c'est vraiment effectivement l'utilisation répétée en fait d'un découpage avec des cases verticales. C'est pas lui qui a inventé le procédé. En revanche, il l'a poussé à un niveau assez inédit dans sa mise en scène. Et ça lui permet de jouer sur la vitesse des mouvements, sur des effets de zoom, et ça renforce effectivement l'immersion du lecteur dans un décor ou même dans la tête d'un personnage, littéralement. Ouais.
Fausto Fasulo, je voudrais juste revenir sur la façon dont ont été accueillies ces planches quand elles sont sorties en 67-68. C'était dans un magazine, c'est ça qu'elles
Tout à fait. Elles ont été accueillies de manière très dubitative par le public de l'époque. Shotaro Ishinomori, c'est vraiment une personnalité qui est déterminante dans l'histoire du manga, mais même peut-être plus largement dans l'histoire de la bande dessinée. Comme vous l'avez dit, Marie, ça a été l'assistant effectivement de Osamu Tezuka, mais ça a été son rival aussi. Et il a été publié avec June dans un magazine qui a été créé par Osamu Tezuka, un magazine qui s'appelait Com, qui était un magazine qui souhaitait rivaliser avec un autre magazine à ce moment-là qui capitalisait sur du contenu extrêmement avant-gardiste qui était Garo. Et Com était un magazine donc pour plutôt jeunes lecteurs, on va dire, mais qui avait l'ambition de proposer des histoires assez ambitieuses et différentes, que ce soit du point de vue de la narration comme d'un point de vue graphique. Et c'est vrai que la prépublication de June dans ce magazine a été un choc pour de nombreux lecteurs qui ne comprenaient pas trop où en fait Shotaro Ishinomori voulait en venir. Et malgré ça, en fait, l'histoire s'est imposée dans le cœur du public, à tel point que ça a fini par gêner Osamu Tezuka, qui était un petit peu jaloux du succès de June, qui était jaloux aussi de voir que Ishinomori en fait expérimentait tout un tas de techniques qui venaient un petit peu bousculer ce que lui avait établi avec le story manga, c'est-à-dire un manga extrêmement narratif dont il est littéralement l'inventeur. Et il a commencé en fait à lorgner du côté de toutes ces techniques de mise en scène et de découpage et à repomper quelques idées qu'il a injectées aussi lui dans son travail, puisqu'il se sentait très clairement percuté par le talent de son ancien assistant. Et Tezuka, qui était effectivement un génie, on le surnommait le dieu du manga, a été un petit peu piqué et a tout simplement suspendu la publication de June à un moment. Donc la publication a été suspendue, il y a eu des courriers de lecteurs pour s'en plaindre, tout ça, etc. Donc à l'époque, ça a été une sorte d'incident et qui a en tout cas marqué un premier point de rupture entre Ishinomori et Tezuka, qui se retrouveront un petit peu plus tard néanmoins.
Pauline Croquet.
C'est marrant effectivement de réentendre cette histoire, surtout quand on voit que June se prend toujours des bâtons dans les roues par son père, lui-même ouais. Mangaka, qui vient lui déchirer des pages. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que June aussi, dans cette volonté d'expérimenter techniquement le dessin, d'aller dans ses confins, moi, ça m'a fait penser à des auteurs qui, des décennies plus tard, l'ont fait aussi. Par exemple, Oussamaru Furuya l'a fait dans Palais Poli, c'est-à-dire à chaque courte histoire, aller prendre un thème, aller filer quelque chose, dérouler la bobine, que ça soit à la fois dans la case, dans le dessin. Enfin, je trouve ça, c'est excellent de voir à quel point il se remet toujours en question. Et ça montre aussi tout le kaléidoscope en fait de Shotaro Ishinomori qu'on connaît relativement peu en France à l'échelle de son impact au Japon, et ça c'est une très bonne entrée en matière pour voir tout son talent et son savoir-faire.
Et je voulais juste revenir sur les visages. Vous disiez que s'il y a quelque chose qui peut avoir vieilli dans le livre, c'est ça. C'est-à-dire,
on est sur effectivement, alors ce qu'on c'est manga des années 60, alors pareil, effectivement, on a toujours des grands yeux avec des pépites pour les jeunes femmes. On a aussi ces visages de trois quarts avec des mèches pour cacher un œil, parce que parfois c'était compliqué la symétrie dans les visages. Chez les personnages, on a parfois beaucoup de visages en cœur, comme ça, un peu avec le menton pointu. Effectivement, la mèche au vent, comme ça.
Moi, j'adore ces rondeurs, en fait, mais je trouve ça hyper... je trouve ça très rassurant. Et en plus, je trouve que quand les histoires ont une portée dramatique et une sorte de gravité, ça crée une sorte de dissonance, comme ça, un peu fascinante entre, justement, cette rondeur, cette douceur des personnages et les drames qu'ils vivent, en fait.
Mais c'est vrai que ça peut un petit peu rebuter des gens qui vont être plutôt enclins à lire...
Enfin, moi, je suis un vieux dans ma tête, donc en fait, ça me va.
Et c'est surtout, c'est une assez belle synthèse entre des designs de personnages qu'on peut avoir. C'est vrai que le manga est très classifié par cible et donc amène parfois certaines conventions graphiques. Là, ce manga plutôt à destination des jeunes filles et des jeunes femmes, avec des visages très très féminins, très détaillés, et des choses un petit peu plus, des personnages avec un allant. Qu'on retrouvera plus dans des récits pour garçons, pour jeunes garçons de l'époque. Donc tout ça montre aussi cette génération de mangaka qui était vraiment déjà au début, donc assez pionnier, qui s'affranchissait finalement de tous les codes, parce qu'il n'y en avait pas vraiment encore, même s'il y avait des figures d'autorité comme Osamu Tezuka. Et effectivement, de faire sa place. Et aussi, à son échelle, on voit... quelles influences a pu avoir Ishinomori sur les générations suivantes.
Exactement, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quelle trace il a laissé. Quand on regarde ce June, qu'est-ce qu'on retrouve de lui aujourd'hui?
Des traces absolument considérables et immenses. Gonagai, le créateur de Goldorak, a été l'assistant de Shotaro Ishinomori, et il dit lui-même, c'est mon maître m'a tout appris, Ishinomori m'a tout appris concernant la science-fiction. Un autre auteur très célèbre, Katsuhiro Otomo, place June parmi ses mangas préférés. Donc il a eu une importance colossale sur des auteurs qui auront ensuite une importance colossale dans l'histoire du manga et de la bande dessinée mondiale.
Mmh. Pauline Croquet.
Oui, c'est ça. Je crois qu'on peut citer aussi Moto Hagio, donc plutôt pour des mangas à destination des jeunes femmes, notamment cette figure du vampire qu'elle a beaucoup élaborée. Shotaro Ishinomori en avait posé des bases. La plongée dans la psyché aussi, qu'on va retrouver chez beaucoup d'autrices de mangas, ça aussi, je pense qu'on le doit en partie à Shotaro Ishinomori.
C'était donc June de Shotaro Ishinomori, paru le 12 septembre dans la maison d'édition IMHO. Merci beaucoup, Fausto Fasulo.
Merci.
Merci, Pauline Croquet, d'être venue nous parler manga aujourd'hui. Vous retrouvez toutes les références de ces deux albums, évidemment, sur la page des Midi de Culture. Maintenant, vous qui nous écoutez, c'est à vous de vous faire une idée.